Ce matin, je vais parler du serviteur fidèle, de la servante fidèle. Je vais lire un passage de Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 13. Matthieu 25, versets 14 à 13. Et tu peux lire avec moi sur l'écran. Verset 14. Il en sera comme un homme, comme d'un homme qui partit pour un voyage et convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2, à un troisième 1 seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit aussitôt à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit le même, et on gagna 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta, apportant les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. Maître, dit-il, tu m'avais remis 5 lingots. J'en ai gagné 5 autres. Les voici. Très bien, lui dit son maître. Tu es bon serviteur et qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai le plus important. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 lingots se présentait aussi et dit, maître, tu m'avais remis 2 lingots. J'en ai gagné 2 autres. Les voici. Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit, maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé. Tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. Mais son maître lui répondit, vaut rien, fainéant. Tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et des intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. Car à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on offrira même ce qu'il a. Quand à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Excuse-moi. Premier point. Dieu nous connaît. Il nous confie l'administration de ses biens selon la capacité de l'individuel. Il ne nous demande pas de faire un travail trop difficile pour nous. Dieu a appelé Josh Peters de le servir comme missionnaire. Quand il a dit à sa femme que le Seigneur les a appelés de travailler pour lui dans un autre pays, elle a dit au Seigneur qu'il y avait des conditions. Elle refusait d'apprendre une langue étrangère. Elle refusait de vivre sans électricité et eau chaude durant midi. Elle refusait de manger de la nourriture bizarre. Elle refusait de vivre dans la jungle où il y avait des animaux dangereux. Nous pourrons dire que cette femme n'avait pas assez de foi pour mettre ses conditions à son obéissance à l'appel de Dieu. Nous pourrons dire que cette femme n'avait pas vraiment la bonne attitude pour dire à Dieu qu'elle ne va pas faire sa volonté si Dieu ne fait pas ce qu'elle exige. Certainement, c'est mieux d'obéir à Dieu en toutes circonstances. Amen. Mais il faut aussi considérer que peut-être cette femme savait qu'elle avait des limites, qu'elle ne pourrait pas supporter ces choses et aussi faire l'œuvre de Dieu dans un autre pays, ce qui est déjà difficile, comme beaucoup de vous savez. En tout cas, Dieu n'était pas exaspéré avec elle. Dieu les a envoyés à une grande ville en Malaisie ou on parle anglais. On conduit une voiture. La nourriture est délicieuse. Et là, ils ont fondé une école biblique pour former des pasteurs et des missionnaires, pour que l'évangile se répande. Et avec Dieu, ils ont vraiment réussi dans le travail que Dieu leur a donné. Deuxième point, ils ne nous considèrent pas tous capables du même travail. Je remercie mon Dieu souvent qu'il ne m'a pas envoyé dans un pays où il fait très chaud, car je ne supporte pas la chaleur et en plus, j'ai la peau pâle qui brûle facilement. Mon Dieu me connaît. Il m'a envoyé en France, où il ne fait pas trop chaud, normalement, et où je peux faire son travail. En plus, ce n'est pas très facile pour moi d'apprendre une langue étrangère. Et Dieu m'a envoyé en France. Il ne m'a pas envoyé là où il parle vietnamienne, ou laotienne, ou motelone. Troisième point, il ne me donne pas un travail trop facile pour moi. Ce qu'il me donne est exactement au niveau où je peux l'accomplir si je m'unis à lui, si j'écoute sa voix et si je reste attaché à lui. Il fait ça parce qu'il a envie de faire le travail avec moi. Il n'a pas envie de me donner un projet et m'envoyer le faire toute seule dans un coin quelque part ou dans un désert quelque part. Il veut que je fasse le travail avec lui. Et alors, il ne me donne jamais quelque chose que je peux vraiment réussir sans lui. Tous ceux qui travaillent fidèlement, qui arrivent à reproduire ce qu'il nous a confié, ils ont tous la même récompense. Celui qui avait deux l'a reproduit, il a fait deux autres. Celui qui avait cinq l'a reproduit, il a fait cinq autres. Et celui qui a reproduit les deux et celui qui a reproduit les cinq, ils ont reçu la même récompense avec la même réponse du maître. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai le plus important. Venez partager la joie de ton maître. Chacun travaille fidèlement selon ses capacités et chacun a reçu la même récompense. Si tu n'as pas la capacité pour cinq, ne te considère pas inférieur. Car ce n'est pas la capacité qui produit la récompense, c'est la fidélité qui produit la récompense. Si tu as la capacité pour cinq, ne te compare pas avec ceux qui sont moins doués. Dieu attend que toi, tu fais selon ta capacité qu'il t'a donnée. N'oublie jamais que si tu es intelligent, c'est parce que Dieu t'a donné un cerveau intelligent. Si tu as des talents, ce sont des talents que Dieu t'a accordés. Et Dieu a le droit d'attendre à ce que tu fais, ce qu'il te donne de faire selon les capacités, selon l'intelligence, selon les talents que Dieu t'a accordés. Il ne faut jamais penser, mais moi je fais plus que les autres. En premier, tu ne sais pas vraiment ce que font les autres. Parce que beaucoup des saints les plus fidèles travaillent en secret pour que Dieu soit plus honoré. Et en plus, tu ne sais pas ce dont les autres sont capables. Si ceux qui sont moins capables sont plus fidèles, ils auront une récompense plus importante que ce que de ceux qui sont moins fidèles, quoi que soit leur capacité. C'est la fidélité qui est importante. Quatrième point. Dieu nous a donné le commandement d'amasser des trésors dans le ciel. Si Dieu nous dit de faire quelque chose en avance, c'est parce que Dieu sait que nous aurons besoin de nous préparer. Et qu'un jour, nous aurons besoin de ce que nous avons préparé. Voici le commandement en Matthieu chapitre 6, verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la ruine ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. Dieu nous parle aussi des hommes de ce monde, ceux qui n'ont rien que ce qui est de ce monde. Je dis ça encore. Dieu nous parle aussi des hommes de ce monde qui n'ont rien que qui est de ce monde. Dans Psaume 17, verset 14, où la parole dit, Délivre-moi de ces hommes par ton intervention éternelle. Que des hommes de ce monde, je sois délivré. Leur seule part est en cette vie. Nous voyons alors qu'il y a un danger pour ceux qui ne vivent que pour cette vie. Nous soyons aussi que c'est important d'amasser des trésors là-haut, car Dieu nous donne le commandement de le faire. Et comment pouvons-nous amasser des trésors dans le ciel? Les trésors dans le ciel sont pour les serviteurs qui étaient fidèles sur terre avec ce que Dieu leur a donné. Alors, pour être un fidèle serviteur, il faut que je comprenne exactement ce que Dieu m'a donné. Amen. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Tout en fait, tout ce que j'ai vient de Dieu. Au moins, tout ce qui est bon vient de Dieu. Dans Jacques, chapitre 1, verset 17, il dit, « Tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'un nom, du Père des Lumières, et en qui il n'y a ni changement, ni ombre, dû à des variations. Tout ce que j'ai vient de Dieu. Je n'ai rien créé moi-même, et tout ce que j'ai réussi à gagner, j'ai gagné avec la force que Dieu m'a donnée, et la capacité que Dieu m'a donnée, et les opportunités que Dieu m'a données. Sans lui, on n'a rien du tout. Et il faut aussi constater que sans lui, on n'existerait pas. C'est lui qui nous a créés. Psaume, chapitre 24, verset 1. La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. Moi, j'appartiens à lui. Et tout ce que j'ai appartient à lui. Je suis son serviteur. Il m'a confié l'administration de certaines choses. Et si je suis fidèle dans l'administration de ce qu'il m'a donné, je vais amasser des trésors au ciel. J'aurai des récompenses quand je revois le maître. Alors, il faut bien regarder c'est quoi qu'il m'a donné. D'abord, il m'a donné le temps. Tout le monde ici a 24 heures par jour. Nous ne savons pas combien d'années nous aurons, combien de temps nous allons vivre sur cette terre. Mais chaque jour, nous avons chacun 24 heures. Les riches, les pauvres, les intelligents, les moins intelligents, les célèbres, les inconnus. Chacun a 24 heures aujourd'hui, toi et moi. Comment vais-je dépenser ces 24 heures que Dieu m'a données? Que fait le fidèle serviteur? Si on met le compte rendu de ce que tu as fait hier sur l'écran, peut-on voir que tu es fidèle serviteur? Qu'as-tu fait avec la journée que Dieu t'a donnée? Les heures du travail, as-tu travaillé comme un fidèle serviteur ou as-tu fait le moins possible? As-tu donné tes forces et ton énergie à bien et vite accomplir les tâches ou as-tu traîné? Et si tu as besoin d'un emploi, combien de temps as-tu passé dans la recherche d'un emploi? As-tu demandé aux connaissances s'ils savent s'il y a quelqu'un qui recrute? Ou attends-tu que quelqu'un vienne te chercher? La Bible dit que celui qui cherche trouve. Si tu n'as pas un emploi, va dans la foi et la grâce que Dieu donne et cherche jusqu'à ce que tu trouves l'emploi que Dieu a pour toi. Et quand tu auras cet emploi, travaille comme un fidèle serviteur. À la maison, es-tu un fidèle serviteur? Que fais-tu avec le temps que tu as chez toi? Sers-tu ta famille, ta femme, tes enfants? As-tu passé le temps ensemble en les encourageant, en les enseignant de suivre le Messie? Ou t'es-tu installé devant la télé ou bien avec des jeux vidéo en espérant être toute seule? As-tu passé ce temps en envoyant des textos pour critiquer ou pour encourager à l'amour et à faire du bien? As-tu passé ce temps en t'inquiétant sur tes circonstances autour de toi? Ou as-tu passé ce temps dans la prière et la lecture de la Bible? La prochaine chose que Dieu m'a donnée, m'a aussi confié de l'argent. Et ce que je fais avec l'argent que Dieu m'a confié montre aussi Si je suis un serviteur fidèle, un vaurien, un fainéant. Il faut bien noter que le serviteur que Dieu a nommé un vaurien, un fainéant, n'avait pas fait du mal avec l'argent que Dieu lui a confié. Il ne l'a pas dépensé pour les prostituées ou pour des images pornographiques et immorales. Il ne l'a pas dépensé pour les jeux d'argent. Il ne l'a pas dépensé pour les objets de luxe, pour s'entourer avec ce qui coûte cher. C'est simplement qu'il n'y a rien fait avec ce que Dieu lui a confié. Rien. Faire rien, c'est un péché. La Bible dit en Jacques chapitre 4, verset 17, « Or, qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. » Et Romains chapitre 14, verset 23, « Or, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. » Vous voyez, Dieu attend beaucoup plus que nous nous comprenons. Nous avons l'habitude de nous comparer avec ceux qui sont autour de nous. Et je vous avertis que ça, c'est un piège qui mène à la mort. Car même si tu fais mieux que tous ceux qui sont autour de toi, que tous les croyants que tu connais, cela n'est pas se conformer à l'image de Christ. Tu te conformes à l'image des autres. En plus, si ceux qui se comparent avec des autres ont la difficulté de vue, car la nature humaine n'a pas envie de changer, surtout pas le changement que le changement exige de la discipline. Et quand je me compare avec les autres, mon cerveau refuse de faire attention à ceux qui font mieux que moi. Et mon cerveau fait très attention à ceux qui sont moins avancés que moi. Parce que mon cerveau n'a pas envie de faire des grands efforts pour changer. Et pour être comme Jésus, il faut changer. Amen. Ne rien faire, c'est un péché. L'argent que Dieu t'a confié, c'est pour faire du bien. La nourriture que tu achètes, c'est pour te fortifier. Pour que tu puisses réussir dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La nourriture que tu achètes, ce n'est pas pour être glouton. Et ce n'est pas pour ne nier tout le temps non plus. Tu auras besoin de la force pour faire des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi. Les vêtements que tu achètes, ce n'est pas pour attirer l'attention des autres, pour être approuvé des autres, pour que tout le monde te regarde et voit combien tu es cool. Les vêtements que tu achètes, c'est pour faire les œuvres du Seigneur. Ce que tu achètes pour ta maison, c'est pour faire un endroit où ta famille peut se reposer, où il y a de la paix, où on peut grandir dans le Seigneur et aussi accueillir des autres pour leur aider à aussi grandir dans le Seigneur. Amen. Amen. Ce n'est pas pour impressionner les autres de combien tu es riche, de combien tu es important. Et les choix que tu fais avec ton argent montrent que tu penses de ce que tu penses de ta maison. Si c'est un lieu de repos, ou une proclamation de ta grandeur, ou bien une proclamation de ta négligence. Je suis sûr que vous avez tous vu des images de Versailles. Je peux vous montrer un ici. Versailles, le château est une proclamation de la grandeur de Louis XIV. Avec ce château, il voulait intimider ses ennemis. C'est fait exprès pour ça. Louis XIV avait l'idée que si mes rivales dans le pays voient combien j'ai de l'argent pour que je puisse verser pour un tel palais, ils ne vont pas se lever contre moi et essayer de prendre le pouvoir. Et si mes ennemis dans d'autres pays voient combien d'argent que j'ai en surplus, que je peux le dépenser pour quelque chose que je ne peux même pas protéger contre la guerre, ils vont croire que j'ai autant d'argent pour dépenser pour mes armées et les défenses que je n'ai même pas peur de leurs attaques. En voyant ce palais de Versailles, je vais aller à la prochaine diapo aussi. Ils vont croire que si j'ai autant d'argent pour gaspiller comme ça, j'ai beaucoup plus pour leur attaquer si j'en vis. Ils auront peur de moi. Ils n'oseront pas faire ce qui me déplairait. Avec ma maison, je vais intimider mes ennemis à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. et j'aurai la victoire. Mais en construisant son château à Versailles, il a invité dans son cœur un ennemi plus dangereux que ce qu'il pouvait voir avec les yeux. Et cet ennemi, c'est l'orgueil. L'orgueil te détruira. Il détruit tes finances. Il détruit ton esprit. Il détruit tes émotions. Il détruit des mariages. Il détruit ton corps. Veille sur ton cœur et ne laisse pas place à l'orgueil. Il ne faut pas penser que l'orgueil est un danger pour les riches. Il y a des riches qui sont humbles et des pauvres qui sont tellement gonflés d'orgueil, consommés d'orgueil, qu'ils ne voient pas où ils vont et ils se détruisent. Amen. Le contraire, c'est John Wesley. Il y a une image ici. C'est un peu difficile à voir. Mais quand il a gagné 32 livres sterling par an, il est arrivé à vivre avec 28 et a donné le reste. Quand il gagnait 60 livres par an, il n'a pas changé ce qu'il dépensait pour lui-même, il donnait 32. Et quand plus tard il gagnait 90 livres par an, il vivait toujours avec le 28, il donnait 62 aux autres. C'était son but de donner autant qu'à sa mort, la valeur de toutes ses possessions ne serait plus de 10 livres, un tiers de son salaire annuel. Et il a réussi. Il savait que quand on donne, on aura des trésors au ciel. Et que c'est mieux d'avoir des trésors au ciel qu'ici-bas, sur la terre. Ce que tu fais avec ton argent est important. Veille pour être sûr que tu glorifies le Seigneur avec ce que tu fais avec ton argent. Celui qui fait des bêtises est un voyant, est un fainéant. Mais aussi celui qui ne fait rien avec son argent et le cache parce qu'il a peur, c'est aussi un voyant et un fainéant. Il faut agir avec de la sagesse. Et si tu as besoin de la sagesse, demande-en au Seigneur. Jacques chapitre 1, verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Amen. Et lis ta Bible. Demande la sagesse quand tu lis la Bible. Et agis avec sagesse quand tu dépenses ton argent. Une chose que la Bible dit plusieurs fois, c'est de payer sa dîme. Une dîme, ça veut dire 10%. C'est très facile de calculer. Dieu fait grâce pour ceux qui ne sont pas très forts en mathématiques. Il s'agit seulement d'enlever le dernier zéro de tes revenus. Et tu sais le montant de ta dîme. Cela veut dire, si tu as des revenus de 10 euros, si tu as un revenu de 10 euros, la dîme, c'est 1 euro. Si ton revenu est 100 euros, la dîme, c'est 10 euros. Si ton revenu est 1000 euros, la dîme, c'est 100 euros. Si ton revenu est 1 million d'euros, la dîme, c'est 100 000 euros. Qui aimerait avoir une dîme de 100 000 euros? Et la dîme, c'est ce qu'on paie à son église. On le met dans la boîte marquée dîme. Tu vois ici, la dîme. L'église utilisait cet argent pour payer pour le chauffage. Qui aime avoir le chauffage pendant le culte? Et on l'utilise pour payer l'électricité, pour ne pas faire le culte dans le noir. Et on l'utilisait pour l'entretien du bâtiment, pour payer notre pasteur. Mais en fait, la raison principale pour la dîme, c'est parce que c'est bon pour moi de la payer. Quand je paie la dîme, j'annonce à mon âme que l'argent n'est pas mon Dieu. Que Dieu est le Dieu de tout, même de mon argent. Pour nous, c'est naturel pour nous. Plus nous avons, plus nous dépensons. Des fois, il arrive des gens qui dépensent ce qu'ils n'ont pas. Ils s'endettent. Ce qui leur fait des pesants fardeaux. Quand je paie la dîme, je déclare à moi-même que l'argent n'est pas le centre de ma vie. L'argent n'est pas ce qui compte le plus. L'argent n'est pas le but. C'est Dieu qui est le centre. Quand je paie la dîme, Je déclare à moi-même et à Dieu aussi que je mets ma confiance en Dieu au lieu de mettre ma confiance en mon chef ou la société où je travaille ou le gouvernement de la République française. C'est Dieu qui est ma source. C'est Dieu qui m'a donné cet emploi. C'est Dieu qui me donne au faveur avec mon chef. C'est Dieu qui m'a permis d'être en France. C'est Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. Amen. Et puisque c'est Dieu, je vis par la foi. Je vis dans la joie. Et je vis avec l'assurance que celui qui pourvoit à tous mes besoins ne m'abandonnera jamais. Amen. Dieu a promis de bénir ceux qui sont fidèles en payant leur dîme. Il n'a pas promis une piscine, un bateau, un avion, un palais, mais il a promis de nous bénir si nous sommes fidèles. La fidélité montre ta foi, et Dieu aime bénir ceux qui marchent dans la foi. L'argent n'est pas mauvais. C'est un outil que nous utilisons pour faire du bien. C'est l'amour de l'argent qui est la racine du mal. Et quand je paie la dîme, je me protège contre l'amour de l'argent qui pourrait me détruire. Et le danger est un danger réel. J'ai entendu quelqu'un dire, maintenant je ne gagne que le SMIC, alors je ne peux pas payer la dîme. Mais quand je gagne plus, je peux payer la dîme. Mais si tu ne le payes pas quand tu gagnes un peu, tu auras vraiment du mal à le faire quand tu gagnes plus. Car les désirs montent plus vite que le montant de tes revenus. Et c'est vrai. Et si je ne paye pas la dîme quand j'ai peur, j'apprends à faire des excuses pour ne pas obéir à ce que Dieu a dit. Ce n'est pas seulement les riches qui ont ce danger de l'amour de l'argent. On peut être dans la misère, sans rien, et aimer l'argent avec tout son cœur. Et il est probable que tu aies déjà rencontré quelqu'un comme ça, qui est pauvre et l'argent est le centre de sa vie. Mais nous ne voulons pas être comme ça. Amen. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu et nous obéissons à notre Père. Quand Dieu nous dit de faire quelque chose, nous le faisons. Si nous ne comprenons pas, nous obéissons et nous faisons confiance en Dieu de ce qu'il me dit de faire. C'est bon pour moi de le faire. Donc, fidèles serviteurs, le Seigneur nous a accordé le temps, 24 heures par jour. Il nous a accordé de l'argent. Et aussi, il nous a accordé des proches. Ce que tu fais dans tes relations avec tes proches, c'est ce que Jésus ferait? Aides-tu ceux qui sont autour de toi à suivre Jésus? On peut tomber dans deux sens ici aussi. Car ici, faire des bêtises, c'est un péché. Et ne rien faire, c'est aussi un péché. Il y a des individus créés par Dieu que tu connais. Sont-ils plus proches à Dieu puisqu'ils te connaissent? C'est ça le but. Dans tes relations avec les autres, si c'est ta femme, si c'est tes enfants, c'est à toi de te les encourager avec amour de s'approcher de Dieu. Les collègues, les voisins, les connaissances et les amis, c'est à toi de les encourager avec l'amour de Dieu, de s'approcher de Dieu. Amen. Amen. Je vous pose un défi. Fais en sorte que si on mettait sur l'écran ton plan d'horaire, tout le monde puisse voir que tu es un serviteur fidèle. Fais en sorte que si on mettait sur l'écran tes comptes, tout le monde puisse voir que tu es un serviteur fidèle. Fais en sorte que si on faisait un sondage de tous ceux qui te connaissent et on leur demandait s'ils sont plus proches de Jésus puisqu'ils te connaissent, la plus grande partie des réponses est oui. Brille. Brille dans la lumière que Dieu a mis en toi. Vous êtes la lumière du monde. Brille. Louis XIV a déclaré qu'il était le roi soleil, mais vous brillez plus que lui, car vous avez la lumière de Dieu. Je vous dis encore, brillez. Amen. Amen. Il y avait dans le 19e siècle un couple missionnaire qui sont allés aux États-Unis en Afrique. Ils étaient jeunes quand ils sont allés. Ils ont passé toute leur vie en Afrique. Ils se sont dépensés pour le royaume de Dieu, là où Dieu les a envoyés. À la fin de leur vie, ils n'avaient pas le soutien financier, car ceux qui les avaient soutenus étaient déjà montés à Dieu. Ils n'avaient pas leur santé, car ils ne se sont donnés au travail, et le travail était long et dur. Ils n'avaient rien. Ils sont retournés aux États-Unis, cœur brisé, car ils ne pouvaient plus faire le travail de missionnaire. Mais ils avaient l'amour pour le peuple de Dieu en Afrique. Ils ne connaissent plus personne aux États-Unis. Ils ont dépensé leur dernier sou pour le voyage en bateau. Sur le même bateau était le président des États-Unis, Theodore Roosevelt. On a une photo de lui là, qui rentrait après un voyage safari en Afrique. Au départ, il y avait beaucoup d'hommes d'État qui sont venus lui dire « bon voyage » et « retournez vite ». Il y avait beaucoup de cérémonies. Pendant le voyage, beaucoup de passagers entouraient le président et en l'écoutant, en demandant des questions et en écrivant ce qu'il disait. Et en arrivant dans le port, on entendait déjà des musiciens qui jouaient de la musique joyeuse pour l'accueillir. Des foules qui criaient et l'acclamaient et des hommes importants qui attendaient pour lui serrer la main et le féliciter pour son voyage réussi. Quant au couple missionnaire, personne ne l'a même remarqué. En arrivant, la mariée a trouvé un emploi de nettoyer un magasin pendant la nuit. Et ce qui lui aussi a permis un petit appartement au-dessus du magasin. Et il a commencé tout de suite avec ce travail. Le premier matin, il est rentré dans son petit appartement, fatigué, découragé, et dit à sa femme, « Ce n'est pas juste. » Quand Theodore Roosevelt rentre chez lui, il y a beaucoup de gens qui applaudissent. Mais pour nous, personne. Pour lui, il y a des musiciens. Mais pour nous, rien. Sa femme a répondu, « Mais nous ne sommes pas encore rentrés chez nous. » Demande tout le monde de baisser leur tête. Ferme tes yeux. Regarde ton cœur ce matin. Nous ne sommes pas rentrés chez nous. Amen. Dieu nous a donné tellement de choses. Ce matin, nous sommes réveillés. Il y a souffle dans nos poumons. Nous avons la force de se lever de notre lit. Pour aller ici ce matin, on peut lever les mains, on peut lever nos voix pour bénir le Seigneur. Il nous a donné des moyens d'avoir nourriture de manger. Peut-être même plus pour aider les autres autour de nous. Merci Seigneur pour ce que tu nous as donné Seigneur. Cette force, cette vie Seigneur. Aide-nous Seigneur d'être des serviteurs fidèles avec ce que tu nous as donné Seigneur. De ne pas gaspiller le temps, les 24 heures par jour que tu nous as donné Seigneur. De ne pas gaspiller l'argent Seigneur que tu nous as donné. Pour fortifier nous-mêmes, mais aussi pour avancer ton royaume, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, dans les décisions, jour par jour. Et vraiment de penser, de réfléchir, est-ce que c'est quelque chose que Dieu veut que j'achète? Est-ce que c'est quelque chose que Dieu veut que je fasse? Est-ce que ça, c'est pour moi? Parce que ça, c'est vraiment m'a aidé ma famille, va aider ma famille. C'est quelque chose que je vais utiliser et jamais penser. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous sommes tes serviteurs. Aide-nous cette semaine, vraiment, de réfléchir sur ce message, Seigneur. Même à écouter encore. Et que tu nous parles, Seigneur, jour par jour, d'aider d'être plus fidèles avec ce que tu nous as donné, Seigneur. Et quand nous arrivons au ciel, Seigneur, on va voir vraiment les trésors que nous avons placés là-bas.